Les carabiniers italiens furent constitués le 13 juillet 1814 à Turin, en Piémont, quand le roi Victor Emmanuel le premier a décidé de créer une force de police responsable de tous les domaines de la partie continentale du royaume de Sardaigne, Savoie, Nice, Piémont, Ligurie et puis ensuite l'île de Sardaigne. Dans ma hypothèse, on peut dire que les carabiniers sont nés sur un ensemble d'expériences, soit à l'intérieur par certains corps militaires déjà existant, soit à l'externe du royaume de Sardaigne, comme la gendarmerie italique, et pas la gendarmerie impériale, dit comme ça. Et je vais souligner une question. Les carabiniers, dans les cas d'enquête et services spéciaux, ont été autorisés toujours à porter des vêtements civils et des armes autres que ceux d'ordonnance. Ça signifie une grande différence avec la gendarmerie française. Après l'unification d'Italie, en 1861, c'est-à-dire 59, voilà, les carabiniers ont été un des éléments essentiels de la construction de l'État au cours des longs processus d'organisation des structures publiques. Et, par exemple, je voudrais vous rappeler que un grand historien anglais qui s'appelle Dennis McSmith a choisi les chapeaux des carabiniers comme l'image de la couverture du livre important qui s'appelle « Histoire de l'Italie » de 1861 à 1958 et ensuite dans toutes les éditions ultérieures jusqu'à 1997. Et ce symbole est évidemment un des éléments les plus importants de la solidité et de la construction de l'État en Italie. Le début du XXe siècle a coïncidé avec la montée au trône du roi Victor Emmanuel III et à partir du gouvernement des Zanardelli et ensuite des Giolitti, l'action du gouvernement marque un véritable tournant dans la politique intérieure. Et enfin, laisse derrière la période des tentatives et des rêves de restauration de l'autoritarisme réactionnaire. Dans ce champ, on peut bien apprécier l'action des carabiniers et des officiers, qui étaient bien connus à l'étranger, comme également indiqué par un officier français. Le capitaine Biche Latour, commandant de l'arrondissement de Montauban, a publié une étude sur les carabiniers italiens, sur la base de son expérience dans le cadre d'opérations de maintien de la paix sur l'île de Crète, entre 1898 et 1902. L'officier décrit aussi les carabiniers. Le corps peut organiser légions, divisions, compagnies, arrondissements et sections. Il relève du ministre de la guerre pour la discipline et du ministre de l'intérieur pour les services. Il existe une légion par corps d'armée, cette arme à sa tête un lieutenant général en résidence à Rome. Le lieutenant général a tout un état-major d'officiers des carabiniers. Les effectifs du corps des carabinieri et des 13 colonels, dont 12 chefs de légion et un détaché à l'état-major, à l'état-major de l'arme, 14 lieutenants colonels commandants de division, 32 majors commandants de division, 134 capitaines commandants de compagnie, 284 lieutenants commandants d'arrondissement, 97 sous-lieutenants commandant des sections, 3 000 carabiniers à cheval, 18 000 carabiniers à pied, environ 1 000 élèves carabiniers dans les écoles. La Légion comprend un certain nombre de divisions, la division 2-3 compagnies, la compagnie plusieurs arrondissements dénommée lieutenance. La lieutenance, suivant son importance, peut être divisée en sections. Quelques années plus tard, dans un livre consacré à l'armée italienne, l'auteur, toujours français, on rappelle que la charge principale de l'arme était celle de veiller à la sûreté publique et assurer le maintien de l'ordre et l'observation des lois. Pour ce qui concerne les officiers, Biche Latour a déclaré que les sous-lieutenants sortent tous des sous-officiers de l'arme ayant suivi les cours spéciaux de l'école des carabiniers de Rome. Seuls les lieutenants de corps de troupes, sauf ceux des armes spéciales, mais en réalité, ce n'est pas comme ça, sont admis à concourir. il aurait donné deux places de lieutenant sous trois vacances, ce qui fera attendre longtemps le deuxième galon au sous-lieutenant, les empêche d'être officiers avant l'âge de 35 ans et la plupart du temps d'arriver au grade de capitaine, étant atteint par la limite d'âge à 50 ans. Il entre, selon Bichetou, trop peu d'officiers et de cavalerie dans les corps des carabiniers, et les lieutenants venant des corps de troupes, avant d'entrer en fonction, vont passer 6 mois à l'école des carabiniers de Rome. Pour ce qui concerne les généraux, je dois souligner que jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il n'y avait les grades généraux des carabiniers, mais simplement des majors généraux ou des lieutenants généraux de l'armée. Par conséquent, un général des carabiniers a fait partie, avec les généraux des autres armes et corps, de l'état-major général. Et dans mes études, j'ai vérifié qu'un seul officier des carabiniers fut promu au grade de lieutenant général en service. En cette période, furent nommés 5 commandants généraux de l'arme des carabinieri, voilà, Sismondo, Pizzuti, Bellati, Spingardi et enfin Del Rosso. Nous avons dix généraux qui sortent de l'arme et qui sont en service même dans les carabinieri. Parmi ceux-ci, Federico Pizzuti, c'est le premier ici, a eu l'occasion d'occuper les postes de commandant général. Pour ce qui concerne l'origine, il y a 2 officiers de naissance noble, et pour un, nous avons certitude de la profession et du titre de père, colonel d'artillerie en retraite et chevalier de la Légion d'honneur, comme indication peut-être de lontaines origines de la famille de la petite noblesse piémontaise, ou plus particulièrement niçoise. En ce qui concerne l'origine régionale, on doit enregistrer une donnée particulièrement intéressante qui montre encore une forte piémontésisation des carabiniers à 50 ans de l'unification d'Italie. Entre les généraux analysés, seulement 2 appartenaient aux nouvelles provinces du Royaume d'Italie, tandis que les autres sont nés dans les anciennes provinces du Royaume de Sardaigne, c'est-à-dire Novare, Genèse, Nice et Troyes, et les restants à Turin et Provence. Quand la famille voilà. Nous avons une générale célibataire et les autres sont tous mariés. La moitié à l'âge environ 30 ans et les autres plus tard. Pour une analyse de la progression des carrières, il faut considérer un petit peu les parcours et on peut dire que voilà. Nous avons ici l'entrée pour tous dans l'école militaire d'infanterie et de cavalerie de Modène, mais ils sont tous officiers qui sortent de l'infanterie et qui entrent dans les carabinieri et qui en restent quelques années dans les gardes des lieutenants avant d'avancer au garde des capitaines. On doit dire que un élément qui reste constant dans l'analyse des carabinieri réside dans le fait que l'avancement à choix constituait une barrière insurmontable pour ceux qui venaient des sous-officiers, qui n'avaient pas les capacités de digérer complètement l'éthos militaire, qui combiné à une préparation plus caractérisée sous question militaire, a rendu sans espoir inaccessibles les épaulettes d'officiers supérieurs, au moins dans la période analysée. La promotion au grade de colonel devait être le symbole d'une carrière consacrée à l'institution et il a représenté l'aboutissement ambitieux de tous ces officiers de l'arme. Ces grades représentent aussi la reconnaissance sociale et militaire d'une vie, parce que, comme on peut le constater par les nombres faibles, devenir général pour les officiers qui sortent de l'arme a été très difficile. Étant donné qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il n'y avait qu'une seule position organique. En fait, la moyenne âge pour rejoindre les épaulettes générales s'élevait à plus de 58 ans. Les grades des majors généraux devaient être la plus haute reconnaissance de carrière des colonels évaluée même si la fin était tout près. En fait, sur les officiers que j'ai étudiés, sur 10 officiers étudiés, 4 sont morts en service, et les causes qui les ont produits sont naturelles, probablement liées à l'activité professionnelle, ainsi que Pizzuti, le commandant général, à ses 61 ans, est mort, peut-être à cause des crises cardiaques, dans les lieux de travail. Voilà la conclusion. On émerge la solidité de la structure de l'armée comme la généralité des structures de l'administration de l'État. Les corps des officiers de l'armée avaient un niveau remarquable de dévouement, de leadership et de cohérence avec la classe politique, qui lui permet de supporter avec fermeté dans la guerre 15-18 un corps plus grand et plus complexe que toute prédiction. En fin de compte, les carabiniers, ils ont eu la perception d'être une élite dans le sens peut-être plus marqué que dans le passé, quand l'extraction de la nobilité n'était pas suffisante pour les distinguer par une classe dirigeante de la même origine. Ceci pour deux raisons principales. Le lien fort et particulier entre les officiers et la défense de la patrie. Le premier était profondément enraciné de la conscience collective parce que les rois étaient les commandants suprêmes des forces armées. La défense de la patrie est un objectif particulièrement vécu par les officiers et surtout doit être compris la défense de l'unité nationale contre les ennemis internes et externes, avec la protection du prestige de l'armée. Les officiers des carabiniers étaient évidemment une partie de la classe dirigeante du pays. Ce n'était pas cependant tout simplement parce que les carabiniers étaient une élite militaire, mais surtout parce qu'ils avaient très forts liens familiaux et des relations avec la petite classe dirigeante qui a gouverné l'Italie. Il faut reconnaître qu'une pluralité d'hommes de qualité ont rejoint l'arme et ils auraient vécu une vie pleine de difficultés, compte tenu qu'il y a eu beaucoup de morts, même au plus haut niveau de la hiérarchie, à cause des maladies et du stress. Une tâche difficile et lourde, celle du carabinier, disponible pour un service 24 heures sur 24, prêt à intervenir dans n'importe quelle situation, à partir des émeutes, catastrophes naturelles, de l'intervention par élection politique ou opérations de mobilisation, toujours présent. Nous pouvons parler alors des sacerdoces laïcs qui a uni les jeunes carabiniers et les commandants généraux, tout dévoué à assurer, en guillemets, une surveillance active, ininterrompue et répressive, qui est l'essence même du service, comme déclare le règlement général de l'arme. Et en fin de compte, un vote de loyauté incontestable pour les valeurs que les pays représentaient alors comme maintenant. Merci.